Vous écoutez Radio Royan et le rendez-vous autour de la musique classique, incontournable d'un point de vue aussi mensuel. Hein. C'est un rendez-vous qui s'est installé sur notre antenne avec le concours de Michel Jardella, grand connaisseur de la grande musique. De l'autre côté de la musique, une autre manière d'aborder la musique classique. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et c'est en votre compagnie que nous allons décrypter quelques strates de la musique classique aussi sous forme de musique un peu dansante, avec effectivement cette valse qui a donné un certain fil conducteur chez bon nombre de compositeurs.
Oui, tout à fait. Hein. La valse est quelque chose qui est surtout arrivé par des conditions techniques. Hein. Les conditions techniques sont que on a les chaussures en cuir sont venues dans les maisons et dans les châteaux. On a mis des parquets. Donc les relations et les pas de danse se sont trouvés changés par toute cette technologie nouvelle. Il faut le reconnaître. Ensuite, la révolution a quand même démocratisé les choses, puisque avant, quand on dansait éloigné de la personne, du conjoint, du partenaire. Et arrivé avec la valse, il y a eu des contacts beaucoup plus proches. Hein. Les rois de France étaient opposés à ces musiques où, quand on les dansait, on était très proche du partenaire. Mais la révolution a changé les choses et, la danse et en particulier la valse, qui s'est un peu emparée du monde bourgeois, d'une certaine forme de noblesse aussi, c'est tous les changements que cette fin du 18e, début du 19e a apporté aux mœurs. Voilà, alors pour commencer, je vous propose peut-être un des morceaux les plus célèbres hein, pour se faire inviter à la valse. Hein. C'est l'invitation à la valse de Carl Maria von Weber qui a été écrite et dédiée pour sa femme. Et ça a été écrit en 1819, c'est un rondo brillant. Et puis, c'était resté au niveau du piano, et puis il y avait un grand compositeur qui a français, notre dauphinois, Hector Berlioz, s'est emparé de cette partition et l'a orchestré. Ce fut quand même un très très grand succès, puisque ce fut dansé même dans les ballets russes, et il y a une version très célèbre, c'est le Spectre à la Rose, qui avait eu un triomphe sur donc l'invitation à la valse. Voilà, donc je vous propose cette version d'Hector Berlioz, de l'invitation à la valse. Alors c'est amusant, je t'ai montré que c'était quelque chose de très organisé, hein, puisqu'il y a écrit par exemple « Mesure 10 à 13, nouvelle demande d'assistance du monsieur. Mesure 22 à 23, il lui parle avec empressement. Mesure 26 à 27, il la presse de nouveau d'aller danser. » Enfin voilà, c'est quand même quelque chose de très, très cadré. Hein.
Oui, oui.
Voilà, alors écoutons dans une version un peu que j'ai choisie avec des instruments d'époque du 19e siècle. Écoutons cette invitation à la valse orchestrée par Berlioz.
bien voilà pour cette première introduction tout en classique, tout en valse, avec donc le compositeur.
Weber, je vous laisse le Carl Maria von Weber, et qui avait écrit ce morceau pour piano et orchestré par Hector Berlioz.
Que nous retrouverons dans quelques instants.
Voilà, qu'on va retrouver.
Sa propre
oui.
valse. Juste auparavant, on va parler un petit peu d'étymologie aussi. Ce terme valse qui signifie un peu tournoyer.
Tournoyer, bien sûr.
Hein, tourner en cercle. Et qui aussi, d'un point de vue rythmique, a sa propre signature.
Hein, oui, oui,
parce
trois
que,
temps.
Qu'est-ce qui fait qu'on tourne? C'est pas du quatre temps.
Non, non, c'est du trois temps.
Du trois temps. Hein, on dit 3-4, puisque au lieu de compter 1-2-3-4, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, voilà, qui donne l'élan pour commencer à tourner. Et ce qui a fait, eh bien, forcément, une articulation dans bon nombre de compositions, ce 3-4, et qui aussi peut se décliner sous d'autres signatures rythmiques. On parle de 3 temps, Michel, mais aussi la valse à 5 temps, la valse à 8 temps, la valse à 11 temps, sans parler de celle de Jacques Brel.
Voilà, bien sûr, la valse à 8 temps.
Mais voilà, toutes, en fait, ces valses qui sonnent, qui ont un côté impair, qui fait que, on est toujours dans la suspension et dans le tournoiement.
Voilà.
Donc, Hector Berlioz.
Hector Berlioz. Alors, Berlioz, qui est notre grand romantique, hein, qui était un orchestrateur extraordinaire, hein, puisqu'il est allé à Dresde, il est allé en Russie, et là, il a laissé ses traités d'orchestration, et tous les Allemands, bien sûr, les Russes ont été impressionnés, et tout le monde s'est inspiré de ses traités d'orchestration. Donc, Berlioz, lui, était quand même le romantique. Il s'était épris d'une Anglaise, Harriet Simpson, et il a écrit, on ne sait pas si c'est pour elle, quand il a écrit la symphonie fantastique, il a écrit une œuvre qui a 5 mouvements et disons il y a une idée fixe, c'est la bien-aimée. Il l'écrivit une première fois, il a réécrit, il a réaménagé, il a refait quelques modifications et en 1855 il a redonné un programme qui est quand même un peu étrange. Hein. Qu'est-ce qu'il dit ? Il explique que sous l'influence de l'opium, un jeune artiste doué d'une sensibilité extrême, Berlioz lui-même, a une série de visions. Les différents mouvements de la symphonie dans lesquels la femme aimée apparaît comme une idée musicale, l'idée fixe, qui revient dans chaque mouvement, mais chaque fois sous une forme différente. Voilà, c'était l'idée de la symphonie fantastique. Alors nous allons entendre, bien sûr, alors cette symphonie, on peut dire quand même citer les différentes parties. Rêverie, passion, un bal que nous allons entendre, la scène dans les champs, la marche au supplice, et puis le rêve d'une nuit de sabbat. Hein, l'opium fait ses effets. Hein.
A fait son travail pour son travail. Le voyage.
Voilà, alors je vous propose cette valse parce que pour la première fois, dans une valse, il y a des harpes. On introduit la. Et après, dans toute la plupart des ballets, quand il y aura la valse, tout le monde se souviendra de l'orchestration de Berlioz. La prochaine fois, dans notre deuxième émission, nous écouterons Tchaïkovski dans la valse des fleurs qui lui s'est servi des harpes. Voilà, donc le bal. Deuxième scène de la symphonie fantastique.
Thank you.
dans le Dauphiné, on sait aussi faire de la valse. Voilà. À Hector Berlioz, voilà, pour ce compositeur qui effectivement donne des lettres de noblesse à ses danses trois temps classiques. Je vous laisse juste repréciser l'œuvre, Michel.
Alors, il s'agit du bal de la deuxième partie de la Symphonie Fantastique. C'est une valse sous forme de rondeau brillant. Et si vous avez bien fait attention, si vous connaissez un peu l'œuvre, on entend deux fois le thème de l'idée fixe, qui est le symbole de la femme aimée. Bon, voilà.
Voilà tout le scénario qui s'est déroulé par rapport à ce que vous avez annoncé, justement, à ce qu'a pu vivre, rêver Hector Berlioz.
Dans son grand rêve.
Dans son grand rêve. On poursuit toujours avec d'autres compositeurs. Alors, et les mesures trois temps.
Voilà. Alors, je vous emmène maintenant sur le deuxième grand mythe moderne. Il y a le premier mythe moderne, c'est Don Juan. Le deuxième mythe, c'est Faust. Qui nous touche un peu tous, l'éternelle jeunesse, qu'on cherche toujours un peu plus ou moins, et Faust qui vend son âme au diable pour garder la jeunesse et pour séduire Marguerite. Voilà, alors, bien sûr, Gounod, qui était un très excellent compositeur, qui avait aussi des qualités pour la création de très beaux airs, donc a créé son Faust, qui a été donné près de 3000 fois à l'Opéra Garnier. Le Faust de Gounod a servi à l'inauguration du Metropolitan Opera. Donc c'est une œuvre qui est donnée partout dans le monde, un peu moins souvent que Carmen, mais c'est la deuxième œuvre célèbre dans les opéras du monde. Et ce fut un triomphe, bien sûr. Alors, je vous propose, bien sûr, c'est une scène de Faust. Et il y a eu, bien sûr, comme dans tous les opéras romantiques français, il devait y avoir une scène de danser. Et au deuxième acte, je vous propose, bien sûr, une scène de Faust. Et c'est là que se trouve le fameux air d'une brise légère, danser. Et nous allons écouter cette deuxième partie quand le docteur Faust va rencontrer Marguerite qui va un peu prendre ses distances dans cette scène de bal, comme toujours une scène de bal pour la, et dans une scène de bal il y a toujours une valse. Voilà. Bon, je vous propose le deuxième acte, les scènes 14 et 15 du Faust de Gounod.
Je ne peux pas passer. été.
Maudit homme, encore là.
Et quoi, mon ami, vous voilà. Vraiment, mon ami, vous voilà.
Diable, quelle orchestration, Michel.
Oui. On est prêt à vendre notre âme au diable pour 20 ans de moins. Hein,
c'est sûr. En tout cas, une belle illustration de cette légende.
Voilà, très bien. Oui. C'est... Faust. Oh, il y en a eu beaucoup d'opéras écrits sur Faust. Hein. Les contemporains ont bien écrit sur Faust. Hein. Enfin bon, il faudrait inventorier, mais c'est un le mythe de la vieillesse et de la jeunesse.
Voilà, qui a un fil conducteur,
voilà, qui est éternel.
Voilà. même avec des, comme on le précisait aussi, avec des côtés plus modernes autour de la musique pop, notamment ce film de Brian De Palma, Phantom of the Paradise, qui aussi donne un côté très contemporain de la légende de Faust de Gounod. Nous poursuivons toujours avec bien des aspects de tournoiement autour de ces valses appropriées par de nombreux compositeurs dans un nouveau que vous allez nous présenter.
Alors cette fois, on change complètement. Je vous propose une valse très très lente. Alors j'ai choisi le morceau le plus célèbre de Debussy, c'est La fille aux cheveux de lin. C'est un morceau pour piano, du deuxième livre de Prélude, et c'est inspiré d'un poème du Le Comte de Lille. Et voilà, je vous lis les premières lignes du poème. Sur la luzerne en fleurs assises, qui chante dès le matin frais, c'est la fille aux cheveux de lin, la belle aux lèvres de cerise. L'amour au clair soleil d'été, avec l'alouette à chanter. Voilà, c'est un petit refrain qui viendra. Debussy, donc, a écrit un petit morceau pour piano, et il se trouve que c'est le morceau de Debussy le plus joué dans le monde. Voilà, c'est La fille aux cheveux de lin de Claude Debussy. Écoutons cette valse très lente.
Voilà un morceau assez emblématique quand on parle de valse et surtout de l'œuvre de Debussy, cette valse lente, Michel Jardella.
Oui, écrite en 1910, donc c'est du XXe siècle. Et Debussy a écrit 24 préludes, dont cela, et c'est des petites, comment dirais-je, comme des petits flashs de 2-3 minutes sur quelque chose de particulier. C'est qu'une impression. Et on vivait encore à l'époque des impressionnistes, de ces impressions musicales.
Voilà, un peu fugaces.
À peine esquissées. Voilà, pour Claude Achille Debussy. Alors, on a choisi maintenant un autre compositeur français, qui a donné une image de la valse extraordinaire, c'est Maurice Ravel. Maurice Ravel a écrit la valse, et en tête de la partition, il faut lire ce qui a été écrit. Des nuées tourbillonnantes laissent entrevoir par éclaircies des couples de valseurs. Elles se dissipent peu à peu. On distingue une immense salle peuplée d'une foule tournoyante. La scène s'éclaire progressivement. La lumière des lustres éclate au fortissimo. Une cour impériale vers 1855. Donc il ne s'agit pas d'une valse qu'on va danser, mais il s'agit plus d'un tableau d'émotions perçues par un compositeur sur la valse. Donc c'est un regard extérieure à la valse et pas vue de l'intérieur. Mais il y a Ravel traduira bien, on n'écoutera que la fin parce qu'on n'a pas le temps de tout écouter, mais il y a tout ce côté vertige qu'il a essayé de traduire dans sa version moderne de la valse. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle a été écrite pas loin d'ici, elle a été écrite dans l'Ardèche. Et c'est un morceau à l'origine pour piano qui a été dédié à Madame Serre, Missia Serre, pianiste et égérie de nombreux peintres, poètes et musiciens au début du XXe siècle. L'œuvre a été composée en Ardèche, donc, chez son ami André Ferdinand Hérold, chez qui il vivra en 1919 et en 1920. Donc c'était dans le sud de l'Ardèche, il y avait un, cet ami possédait une grande demeure bourgeoise et Ravel s'était installé. Donc il va composer cette œuvre-là. Alors cette œuvre-là, elle a posé beaucoup de problèmes. Elle a posé des problèmes parce que elle a été présentée par Diaghilev en 1920 dans une version pour piano. Diaghilev dit, moi, je peux pas transcrire ça par un ballet, c'est pas possible. Donc, il refuse. Il dira à Ravel, c'est un chef-d'œuvre, mais ce n'est pas un ballet. C'est la peinture d'un ballet. Stravinsky, qui était présent à cette discussion, quant à lui, restera muet, ne dira pas un mot. Face à cette querelle, et Ravel ne lui pardonnera pas, ils ne correspondront plus jamais. Ouais. Hein, Ravel se fâcha avec Stravinsky, c'était un autre monde qui se nouait. Alors, cette valse fut interprétée quand même dans un ballet. C'est Ida Rubinstein qui parviendra à en faire la chorégraphie. Alors, Ida Rubinstein, c'est important parce que c'est la première femme qui dansa sur le boléro de Ravel. Et elle a dansé aussi sur la valse. Voilà, alors je vous propose quand même dans le tourbillon de la valse version Ravel, la fin de cette valse où on sent le vertige que la valse donne aux danseurs.
Thank you.
Diantre, quelle puissance cette valse. On peut dire que là, il y a véritablement une orchestration un peu cinématographique à Michel.
Oui. Ravel était un orchestrateur formidable. Il a transcrit les tableaux d'une exposition de Moussorgski. On appelle maintenant, ça a été la gloire de Moussorgski, Moussorgski-Ravel. C'est un orchestrateur extraordinaire. Il avait l'art, la maîtrise parfaite de l'orchestration. On en a un exemple là. Et on a vu un peu cette espèce de vertige que donne la valse, qui veut traduire, je crois que c'est quand même une réussite. Hein.
Ah oui, quelque part, dans une spirale musicale, cela nous entraîne.
Tout à fait.
Ravel, pour refermer cette première émission consacrée à la valse de très très belle manière, d'autres compositeurs à découvrir absolument. Michel, oui. Quand on parle de valse dans la musique classique, forcément on a un peu dans la tête Richard Strauss aussi.
Oui, Richard Strauss, d'abord on a tous les Strauss viennois. Hein, la famille Strauss, dont on évoquera les problèmes qu'ils ont posés aux nazis, hein, puisque la dynastie des... Pas de Richard Strauss, de Johann Strauss. Ouais. Les dynasties Strauss étaient israélites, étaient d'origine juive. Hein, et cela posera un petit problème aux nazis, parce qu'il fallait supprimer toutes les valses autrichiennes, puisque quand il y a eu la prise de pouvoir, tout musicien juif était interdit par les nazis. On ne jouait plus Mendelssohn, était interdit de jouer. On ne jouait plus Gustav Mahler était absolument interdit de jouer. Les nazis disaient cette juiverie, il faut l'éliminer. Puis on verra le drame qu'il y a eu avec Hitler la semaine prochaine. C'est quand même des pages étranges de l'histoire de notre époque.
Hein. Qu'il a contourné par la force des choses un petit peu les événements qu'il affectionnait quand même les valses
pour les faire accepter. Voilà.
Ce sera l'objet de cette deuxième émission autour des valses, avec grand plaisir donc de se retrouver à cet effet. Merci beaucoup, Michel Giardella.
Allez, au revoir.
Au revoir.